dans Jonas. Dans le livre de Jonas, un petit prophète de l'Ancien Testament. Jonas est allé crier à Ninive aussi. Jonas, un tout petit livre de l'Ancien Testament, mais quel livre! Je suis tellement béni. Puis vous savez quoi, il y a des personnes qui m'ont dit, je suis content Yannick qu'on est dans Jonas parce que c'est un livre que j'aimais pas beaucoup. Et ça me va, ça, j'aime ça, c'est un bon défi, ça me plaît. Parce qu'honnêtement, moi je suis tellement béni, j'espère que vous allez recevoir un peu de cette grâce-là que je reçois moi-même en lisant ce livre. Jonas chapitre 1, et comme c'est très court, 48 versets, je vais vous relire le chapitre 1 et on va lire le chapitre 2. Donc on va lire ces 27 premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. » « Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et ils firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. « Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. mais je verrai encore ton temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. On va prier. Père éternel, je suis touché, édifié, libéré personnellement, Seigneur, par ce message de grâce. Ta compassion, cette main tendue qui va vers les hommes si souvent dans ces quelques versets, Seigneur. Et ça me fait du bien d'entrer en contact avec ton cœur, d'entendre ta parole pour découvrir ta compassion pour les hommes, Seigneur. Et en même temps, Seigneur, c'est tellement révélateur de nos propres cœurs que de voir cet homme, ce prophète, cet homme de Dieu, cet homme religieux qui manque tellement de compassion, Seigneur. Père, je te prie de nous toucher par ta grâce ce matin. Nous en avons tous besoin. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Pour ceux qui ont de la difficulté avec l'histoire du poisson, puis tout ça, je vous invite à écouter la prédication de la semaine dernière. J'ai fait quelques commentaires là-dessus. Je pense que c'est important de les écouter pour bien recevoir le message de la parole. Maintenant, je fais seulement une observation pour commencer. Parce que si vous êtes familier avec le livre de Jonas, vous connaissez la fin de l'histoire. C'est très court. Si vous avez lu les 48 versets cette semaine, comme je vous l'avais demandé, vous avez vu la fin de l'histoire. C'est très, très court. Et ça nous laisse perplexes, tout ça. Parce qu'il y a une chose qui n'est pas vraiment évidente dans le livre de Jonas, c'est la repentance chez Jonas, n'est-ce pas? Vous savez, une repentance qui l'amènerait à avoir un cœur comme le cœur de Dieu, malheureusement, on ne rencontre pas ça dans le livre. On va voir une certaine obéissance, mais on ne voit pas cette repentance qu'on voudrait voir où Jonas va commencer à avoir un cœur qui bat au rythme du cœur de Dieu, un cœur qui va être animé par la compassion comme Dieu l'est pour les gens de Ninive, comme Dieu l'est pour les marins, comme Dieu l'est pour Jonas lui-même, n'est-ce pas? Maintenant, Jonas s'est éventuellement repenti vraiment, je crois. Ça, c'est ce que je pense. Je crois qu'un jour, Jonas s'est vraiment repenti. Qu'est-ce qui m'amène à dire ça? Mais c'est qu'on a tout le récit de Jonas. Ce livre-là est dans la Bible et il a fallu que Jonas l'écrive ou que Jonas le confie à quelqu'un. Il y a des moments où, je veux dire, il y a Dieu, un gros mammifère marin, puis Jonas. Et il y a des choses qui se passent là. Il n'y avait pas de caméra cachée à l'époque, vous comprenez? Il a fallu que Jonas raconte ça à quelqu'un. Et donc, ce que j'imagine, là, je sais, je suis en train d'imaginer, je suis en train de spéculer, mais j'imagine Jonas dans son vieil âge, qui est assis avec son arrière-petit-fils, je ne sais pas, puis qui dit, « Faut que tu écrives mes mémoires, faut que ça aille dans la parole de Dieu, cette affaire-là. Je suis un prophète de l'Éternel, et il y a des moments de mon histoire dont je ne suis pas tout à fait fier, mais on ne l'embellira pas. » Et c'est une des beautés avec la parole de Dieu. Je le dis souvent, la parole de Dieu nous montre l'homme tel qu'il est, dans sa beauté, dans sa stupidité. Dans sa grandeur et dans ses bassesses, qu'il s'agisse des hommes de Dieu, qu'il s'agisse des païens. Jonas a raconté cette histoire-là en détail un jour à quelqu'un, et honnêtement, ce n'est pas le livre qui le met le plus en valeur, parce qu'il reste assez bête jusqu'à la fin. Mais je crois qu'un jour, Jonas a compris le message de compassion que Dieu avait pour lui, et c'est pour ça qu'il a pris le temps de nous raconter tous ces faits-là tels qu'ils sont. Et peut-être qu'à ce moment-ci, dans votre histoire à vous, vous êtes un peu comme Jonas, entêté à ne pas faire la volonté de Dieu, entêté à ne pas accepter d'étendre la compassion que Dieu a manifestée envers vous à tous les hommes autour de vous, à tous les êtres humains autour de vous. Et peut-être que vous êtes comme Jonas, en fugue actuellement devant la face de l'Éternel. Ma prière est que comme lui, maintenant ou plus tard, un jour, vous racontiez cet épisode actuel de votre vie comme Jonas l'a raconté, en montrant combien Dieu a été compatissant envers vous et combien Dieu a été gracieux envers vous. La semaine dernière, on a vu ensemble que lorsque Dieu nous avertit, c'est ce qu'il fait avec Ninive, n'est-ce pas? Il envoie, il veut envoyer son messager pour donner un avertissement. Quand Dieu nous avertit, Dieu n'est pas encore en train de châtier. Quand Dieu nous avertit, Dieu veut faire grâce. Si Dieu ne voulait pas faire grâce aux gens de Ninive, il aurait pu faire simplement comme Sodome et Gomorre, détruire. Mais Dieu veut faire grâce. Et donc, Dieu veut envoyer son messager pour avertir. Les avertissements que Dieu nous envoie dans nos vies, que ce soit par des gens autour de nous, que ce soit par la parole de Dieu, que ce soit à travers des circonstances dans nos vies, ce sont des appels à la repentance que Dieu place devant nous. C'est déjà une manifestation de la compassion de Dieu et de sa grâce. S'il n'y avait pas de compassion, il n'y aurait pas d'avertissement, il n'y aurait que le châtiment immédiat. Et on pourrait tourner dans quelques pages dans la Bible où il n'y a qu'un châtiment très rapide. Touchez à l'arche de l'Alliance pour voir. Il n'y a pas d'avertissement. Il n'y a pas d'avertissement. L'avertissement avait été donné plus tôt. On a vu ensemble la semaine dernière que Jonas refuse d'obéir à l'Éternel et il prend la fuite, il devient un fugueur, il est en fuite et il tente de fuir loin de la face de Dieu. Tu peux fuir loin d'une idole parce que l'idole t'a sorti ton canif, tu l'as taillé dans une petite pièce, à la limite, tu la mets dans un colis quand Post Canada commence à fonctionner, t'envoies ça à l'autre bout de la planète puis t'es libéré, t'es loin de ton idole. Comment vas-tu fuir loin non pas d'un Dieu créé par les hommes, mais de celui qui nous a créés. C'est de la pure folie. Dieu est omniprésent, Dieu est partout. Mais Jonas tente de fuir loin de l'Éternel. Un prophète de Dieu tente de fuir loin de la face de l'Éternel. C'est complètement, complètement fou. Et Jonas va s'engager dans une espèce de spirale de descente, de folie, où il va être de plus en plus stupide et fou. Et Dieu va le poursuivre dans sa grâce. Est-ce que vous êtes en fuite actuellement? Chrétien ou non? Spirituel ou non? Religieux ou non? Est-ce que vous êtes en fugue actuellement? Êtes-vous en fuite? Dieu vous a parlé. Dieu vous a parlé. Dieu vous a demandé de lui obéir, de marcher dans ses voies. Ça peut être de manière globale à travers votre vie, ça peut être de manière spécifique avec quelque chose que Dieu vous a demandé de faire. Et vous êtes en fugue, vous êtes en fuite. On va voir ensemble avec Jonas que vous êtes en train de vous engager tout probablement dans une espèce de spirale, une descente, où la folie va devenir de plus en plus présente dans vos raisonnements, dans vos pensées, dans vos agissements. Et dans sa grâce, Dieu va probablement vous poursuivre. Ça se peut que ça brasse. Ça se peut que ça brasse. Fuite de Dieu. Jonas part en fuite. Et ce qui est frappant dans le texte, et lorsque Jonas l'a raconté, il a voulu le mettre en lumière, c'est très, très clair. Jonas va commencer à déraisonner. Jonas va se mettre à penser d'une manière folle. Déjà, l'idée d'essayer de fuir Dieu, c'est complètement ridicule. La seule manière de fuir Dieu, c'est de sauter dans ses bras. C'est la seule manière. Comment tu fais pour fuir quelqu'un qui est omniprésent? Tu sautes dans ses bras, tu t'arranges pour être en paix avec lui, puis tu dis « Je t'aime, on va marcher ensemble, je ne peux pas me sauver. » Mais Jonas décide qu'il peut essayer de fuir. Et ce que ça produit chez lui, c'est qu'il va se replier de plus en plus sur lui-même. Il va se renfermer sur lui-même. Il n'entend plus ce qui sort de sa bouche. Il y a une espèce de coupure qui se passe. Jonas ne s'entend même plus parler. C'est un prophète de l'Éternel. Hein? Il connaît la parole de Dieu. Et quand Jonas parle pour la première fois dans le chapitre 1, c'est complètement insensé ce qu'il dit. un païen idolâtre était capable de voir que ça n'avait aucun bon sens, puis capable de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là, mon vieux? Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se produit lorsqu'on fuit loin de l'Éternel. On s'enlise, on s'enferme. Si Dieu est Dieu, il est la sagesse. Si Dieu est Dieu, il est la bonté. Si Dieu est Dieu, il est le chemin à suivre. Fuyez loin de l'Éternel. Vous allez vers la déraison. Vous allez vers la folie. Et à un certain moment donné, vous allez sombrer dans ce que Martin Lloyd-Jones appelle une dépression spirituelle. Martin Lloyd-Jones, un super prédicateur de la parole de Dieu qui est décédé il y a quelques années, cet homme-là parlait du phénomène pour un croyant, pour un chrétien qui s'enfonce dans une dépression spirituelle. Parce que Dieu l'a confronté, Dieu lui a montré le chemin à suivre, et ce chrétien-là qui connaît la parole de Dieu décide de s'éloigner, refuse, renonce à obéir à Dieu et à faire ce que Dieu lui demande. Et cette personne-là va se mettre à déraisonner de plus en plus. À un certain moment donné, elle perd contact avec la réalité. Alors que la tempête est en train de frapper le navire, les gens qui sont là, qui sont païens, qui ne connaissent rien de la parole de Dieu, agissent de la manière sage qu'il faut agir. Le feu est dans la maison. Essaie d'éteindre le feu, va pas te coucher. Non, Jonas descend au fond du navire, puis il s'en va se coucher, conscient que c'est Dieu qui a soulevé la tempête. Il est en train de bouder dans son coin. Littéralement, c'est ça qu'il fait. Et j'espère que l'image de Christ en train de dormir dans la barque, si vous êtes familier avec les Écritures, vous vient à l'esprit. Hein? Quelle différence entre ces deux repos-là? Celui qui est reposé en Dieu, qui a confiance en l'Éternel, et celui qui sait qu'il est poursuivi par Dieu. Mais on peut dormir dans notre rébellion. On peut s'enfoncer dans notre rébellion. On peut s'engourdir longtemps dans cette folie-là et sombrer dans cette espèce de dépression spirituelle. C'est ce que Jonas fait ici. Et donc, il perd contact avec la réalité. Le navire va couler. Il décide que c'est le temps d'aller dormir plutôt que de réagir. Et ce que Jonas fait ici dans ce récit-là où le narrateur est en train de mettre en parallèle à quel point lorsque tu décides de résister à Dieu, tes comportements, tes agissements, tes pensées peuvent devenir pires qu'un païen. Littéralement, Jonas devient pire que les païens qu'il y a là sur le navire. Ces gens-là ne connaissent rien de la parole de Dieu. Et pourtant, ils se comportent de manière plus spirituelle et plus sensée. C'est vrai? Je veux dire, la première chose que tu fais, c'est que tu essaies de sauver le navire. Lui, il s'en va se coucher. La deuxième chose que tu fais, minimum, tu commences à prier. Jonas ne prie jamais sur ce navire. Eux invoquent au moins leur Dieu qu'ils ont taillé avec un canif, puis ils se sont fait des dieux, puis ils crient à tous leurs dieux, puis ça ne marche pas. Donc, ils disent, il y en a sûrement un autre qui peut faire une prière sur ce bateau-là. Il est en train de dormir dans la cale, on va aller le chercher. Ils sont en train de prier, ils font la chose sensée. Lorsqu'ils le réveillent, ils disent à Jonas, « Dis-nous qui tu es, pour que le sort vienne sur toi et que Dieu, en se servant du hasard, nous révèle que c'est toi la cause du malheur qui nous frappe. Dis-nous qui tu es. » Là, c'est incroyable ce que Jonas va dire ici. Vous comprenez? Il leur a déjà révélé qu'il est en train de fuir la face de l'Éternel. Je me revois encore dans mon adolescence. Alors que je pense que j'étais pas vraiment chrétien, mais j'aimais bien certaines journées croire que je l'étais, puis d'autres journées ne pas croire que je l'étais. Et je me revois encore des fois en train de parler de l'Évangile à mes amis avec qui j'avais viré une brosse la veille. C'est ça que Jonas fait ici. Jonas s'est dit, je vais vous expliquer qui je suis. Moi, je suis hébreu. Je fais partie du peuple juif. Nous, on est les élus de Dieu. Nous, on était choisis par l'Éternel. Moi, je crains l'Éternel. Voyez-vous comment, lorsqu'on décide de s'engager sur ce terrain-là, de résister à l'Éternel, on peut devenir, à un certain moment donné, franchement stupide. Parce qu'il est vraiment, je m'excuse, mais il est vraiment épais, là. Tu ne peux pas être plus stupide que ça, là. Et pourtant, il dit. Quand tu dis, il ne dira pas ça. Il va cacher, il va dire, non, je ne connais pas Dieu. Moi aussi, j'ai essayé un culte à ma petite idole. Regardez, j'ai un 30 sous, c'est mon amulette. J'ai essayé de la prier, ça ne change rien. Non, il dit. Puis il dit, moi, je suis un prophète de l'Éternel. Je suis en train de fuir loin de l'Éternel. Et il y a encore de l'orgueil là-dedans. Alors, lui dit qu'il craint l'Éternel. Et la seule pensée qu'il a en tête, c'est une pensée suicidaire. Cet homme-là est tellement rebelle envers Dieu, s'enfonce tellement dans cette dépression spirituelle qu'il en vient à avoir des pensées suicidaires. Lorsque les marins lui disent, « Mais qu'est-ce qu'on va faire si c'est toi qui amènes ce malheur-là? Qu'est-ce qu'on va faire? » Un homme qui connaît Dieu et qui est censé, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe à genoux puis il commence à prier. Il dit, « Seigneur, je me repens, c'est correct. C'est beau. Tu peux calmer la tempête, Seigneur, je me repens. » Ça ne semble même pas lui passer par l'esprit. Il est tellement entêté dans la folie de son péché. Le péché a un tel pouvoir d'aveuglement sur son cœur qu'il a deux options. Je reste sur le bateau et on coule toute la gang, ou vous me jetez à la mer, je meurs et vous êtes sauvés. C'est les deux seules options que Jonas est capable de voir à ce point-ci. Aveuglé qu'il est par l'entêtement de son péché. Et Jonas est suicidaire. Je crois personnellement. Peut-être que vous avez trouvé que c'est trop gros ce que je vais dire là. Je crois qu'il y a plus malheureux que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui est désespéré. Je crois que celui qui connaît Dieu et qui fuit Dieu peut être encore plus malheureux. Et en plus de 10 ans de ministère, j'ai parlé avec des chrétiens suicidaires. C'est tout ce que Jonas a sur son cœur à ce point-ci. Ça ressemble à un conte de Walt Disney, mais honnêtement, il se passe quelque chose d'intense dans son cœur. Le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, le Dieu qui les a toujours délivrés, n'est pas une option pour Jonas. Tout ce qui lui reste, c'est le suicide. Et ça se peut très bien que tu sois là actuellement. Et c'est pas parce qu'il y a un sourire le dimanche matin quand tu viens à l'église. Hein? La parole de Dieu nous dit au milieu des sourires, le cœur peut être en larmes. Ça se peut très bien que tu sois là ce matin. Tout sourire le dimanche. Mais les pensées sont sombres. Tellement sombres. Parce que tu es en train de fuir l'Éternel. Et tu t'enfonces dans cette folie-là. J'avais des noms à amener à Dieu dans la prière cette semaine. Vous comprenez, j'avais des noms à amener à Dieu dans la prière. Laisse-toi toucher par la grâce de Dieu qui veut te sortir de là. Jonas s'est rendu pire qu'un païen. Et sa seule option, c'est le suicide. Est en train de fuir loin de la face de Dieu et son cœur est rempli de folie. Maintenant, la grâce de Dieu va intervenir d'une manière assez extraordinaire, je suis d'accord, assez surnaturelle, assez fantastique. Parce que lorsque Jonas prend la fuite, Dieu poursuit. Et effectivement, Jonas est jeté à la mer. Les marins, je ne m'arrêterai pas sur les marins, mais ces hommes-là sont surpris par la grâce. S'il y a quelqu'un qui craint l'Éternel dans ce livre-là, ce sont ces marins, ce sont les Ninivites. Regardez ce que le texte dit au verset 10, ça dit « Ces hommes eurent une grande frayeur, en réalité une grande crainte en hébreu. » D'accord? Maintenant, regardez lorsqu'on arrive au verset 16. « Au moment où ils jettent Jonas à la mer se calme. » Et là, ces hommes-là commencent à craindre non plus la mer, mais à craindre l'Éternel. Cette crainte qui est une sainte révérence devant Dieu. lorsque je réalise, mais qui est ce Dieu incroyable qui commande tout? C'est ce qu'ils ont déclaré dans leur prière juste avant lorsqu'ils disent « Ô Éternel, tu fais ce que tu veux. » Ils jettent Jonas dans la mer s'apaise. Et ils répètent « Ô Éternel, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui es Dieu. » Ils offrent des sacrifices à l'Éternel et ils font des vœux à l'Éternel. Ces hommes-là ont connu cette crainte sainte de Dieu, cette sainte révérence envers Dieu. Mais Dieu va poursuivre Jonas et il ne permettra pas à Jonas tout simplement de se suicider et d'en finir là. Et Dieu, d'une manière surnaturelle, le narrateur ne fait même pas un grand cas de ça. Verset 1, chapitre 2, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » C'est pas plus compliqué qu'une mère à ébranler, c'est pas plus compliqué que de ressusciter Jésus-Christ. C'est pas plus compliqué que de créer la terre, les cieux, de créer les êtres humains. C'est Dieu. Aussi difficile à croire que ça puisse paraître. Verset 2, « Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. » Enfin! J'ai appelé cette partie-là « Retour à la raison ». Voyez-vous, lorsque nous nous enfonçons dans notre folie, dans notre bêtise, la parole de Dieu nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, il en va de même avec la compassion de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, va poursuivre Jonas, va se lancer derrière lui. Réalisez un instant que Dieu aurait tout simplement pu abandonner son messager. Je veux dire, à la limite, Dieu, il me semble, aurait été plus stratégique s'il avait envoyé un ange apparaître aux marins. Je veux dire, ces gars-là sont intelligents. Ces gars-là ont compris quelque chose. Ils viennent de découvrir la grâce de Dieu. Envoie un ange, puis mandate-les d'aller à Ninive. L'autre, laisse-le couler. Mais Dieu n'est pas ainsi. Dieu n'est pas ainsi. Et Dieu, la parole de Dieu est là pour nous faire connaître notre Dieu. Dieu aurait pu abandonner Jonas à ce moment-là, le laisser couler, le laisser obtenir ce qu'il mérite. Tel n'est pas Dieu. Parce que Dieu veut faire grâce aux hommes et il nous appelle à la repentance, il nous appelle à revenir à lui. Alors Dieu va le poursuivre pour lui faire grâce et le libérer de lui-même. Et ce que Dieu fait ici, c'est qu'il met en isolement pour 3 jours, 3 nuits. Tu vas aller en réflexion, mon copain. Tu vas comprendre quelque chose. Non, tu ne mourras pas. Tu vas réfléchir. Et vous savez, lorsque Dieu se lance à notre poursuite, parfois, ce sont des tempêtes qui se soulèvent dans nos vies. Parfois, ce sont des tempêtes qui se soulèvent dans nos vies. Lorsque Dieu se lance à notre poursuite, mais Dieu veut enseigner ici à Jonas qu'il est bon, qu'il est compatissant et qu'il veut lui faire grâce. Dieu veut montrer à Jonas que tous les hommes sur la terre ont besoin de la grâce de Dieu. Les Ninivites, ces païens idolâtres, débauchés, qui vivaient probablement avec toutes sortes de cultes complètement infâmes, ont besoin de recevoir la compassion de Dieu et la grâce de Dieu. Le problème, c'est que dans l'esprit de Jonas, lui est un homme droit. Si Jonas avait vu son propre cœur comme étant le même que celui des Ninivites, ça n'aurait jamais été une question. Mais lui se voit comme un homme droit. Jonas se tient debout et dit, « Quoi? Tu veux que j'aille avertir avant la destruction. Dis-moi que tu vas les détruire. Je vais tout de suite sabrer le champagne avec toi, Seigneur. On fait un party, je t'offre un sacrifice. Zap! Tu viens les détruire. » Parce qu'eux autres, ce sont des débauchés, des idolâtres, des êtres abominables qui nous haïssent en plus de ça, qui haïssent les Juifs en plus de ça. Alors que nous, on est des hommes droits. Non, Jonas, t'es un orgueilleux, un être sans compassion. Qui était Israël avant que Dieu dépose son regard sur Israël? Un peuple d'esclaves. Mais Jonas, tu es un orgueilleux, religieux, dénué de compassion. Et le livre de Jonas, c'est ça. Dieu démontre que Jonas, les Ninivites, les marins, tous les hommes sont des pécheurs, qu'ils soient religieux ou non, et ils ont besoin que Dieu leur fasse grâce. C'est ça le livre de Jonas. C'est l'argument de Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 1, 2 et 3. Tous les hommes sont pécheurs, religieux ou non. Et Dieu va poursuivre Jonas pour aller lui montrer cela. Lui montrer qu'il est un pécheur orgueilleux. Et ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque Jonas est en train d'être dans l'isolement, au milieu de cette tempête qui l'a poussé jusque-là, qu'il va commencer à raisonner. C'est le début du retour à la raison pour Jonas. C'est là qu'il va commencer à réfléchir. Une des choses à retenir avec le livre de Jonas, spécialement si vous êtes chrétien, d'accord? Si vous êtes chrétien, vous devez réaliser que vous avez fait alliance avec l'Éternel. Un jour, vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous avez reconnu qu'il est sauveur des hommes et que le salut ne se trouve qu'en lui. Dieu a fait alliance avec vous. Dieu s'est engagé à vous bénir. Et si vous tournez la face à l'Éternel et vous dites « Non, je n'obéirai pas et j'en ai rien à cirer de tes bénédictions. » Quand Dieu se lève et vous poursuit, ça va brasser, les amis. Ça va brasser, les amis. Ça se peut que ce soit par des circonstances. Ça se peut que ce soit simplement intérieurement. Vous sentez que vous vous enfoncez de plus en plus dans cette espèce de dépression spirituelle crasse de Jonas qui fait qu'il n'a plus goût à la vie. La vie m'aurait été meilleure sans Dieu parce que je n'aurais pas été exposé à la volonté de Dieu. Voilà le genre de raisonnement que Jonas avait au fond de ce bateau-là. Mais si vous avez fait alliance avec l'Éternel, lorsque l'Éternel va décider de venir vous chercher parce qu'il veut vous libérer de vous-même, c'est ça que Dieu fait avec Jonas. Il libère de lui-même. Lorsque Dieu veut vous libérer de vous-même, ça se peut que la tempête se lève, ça se peut que ça brasse dans votre vie, ça se peut que les choses tombent. Et si vous revenez à Dieu simplement pour que les choses se placent, vous n'avez absolument rien compris. Vous devez revenir à Dieu, pour ce qu'il est, parce qu'il veut vous combler de sa grâce, de son amour. Mais ça se peut que ça brasse. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises, puis ça vous est arrivé à vous aussi, de discuter avec un frère, avec une sœur, puis cette personne-là est en train de parler de, comme de l'acharnement que Dieu a sur elle. Mais vous connaissez sa vie. Vous savez que la personne est tout croche, elle s'est éloignée de Dieu, elle ne marche pas avec le Seigneur, il y a de l'hypocrisie dans sa vie, c'est n'importe quoi comme témoignage chrétien. Puis là, cette personne-là vous parle de l'acharnement de Dieu sur elle. Mais voyez-vous, la tempête qui est survenue ici, ce n'était pas un châtiment de Dieu sur Jonas. C'était l'intervention de Dieu pour venir libérer Jonas de lui-même. Si Dieu avait voulu châtier Jonas, tout ce qu'il avait à faire, c'est de le laisser couler au fond du navire. Tout ce qu'il avait à faire, c'est de le laisser partir à Tarsis. Va vivre comme un païen, puis au jour du jugement, tu te présenteras devant moi, on verra. Et parfois, nous interprétons des événements dans nos vies comme des châtiments de Dieu, alors que ce n'est pas ça. Dieu est en train d'intervenir dans sa grâce, nous dépouillant de nos ressources, de notre autonomie envers lui, pour nous ramener à lui. Et c'est un geste d'amour de la part de Dieu. Ce n'est pas un châtiment indifférent et cruel. C'est un geste d'amour, c'est une intervention de la grâce de Dieu dans nos vies lorsque Dieu fait ça. Et c'est simplement dans le ventre du poisson que Jonas va commencer à réfléchir. Et il dit des drôles de choses, je vais juste en souligner quelques-unes, d'accord? Il dit au verset 4, il dit « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. » C'est drôle, ce n'est pas ma lecture de ce qui s'est passé sur le bateau. Ma tête de cochon, Dieu s'est levé et tout ce que tu as trouvé comme solution, c'était le suicide. Mais Jonas sait pertinemment que cette tempête, c'est Dieu qui l'a soulevée. Et donc, Jonas interprète tout ce qui s'est passé sur ce navire comme la main souveraine de Dieu qui est en train de le poursuivre. Et en conclusion, il dit, c'est toi qui m'as placé dans cette situation-ci. Au verset 5, il dit, « Je suis chassé loin de ton regard. » C'est vraiment étrange qu'un homme qui cherchait à fuir loin de la face de l'Éternel soit en train de dire maintenant, « Je suis chassé loin de ta face. » Non? Et pourtant, c'est révélateur de nos propres cœurs. Lorsque nous refusons de marcher avec Dieu, que Dieu nous a montré ce qu'il attendait de nous, nous fuyons loin de la face de l'Éternel. Nous tentons de fuir loin de Dieu. Et à un certain moment donné, il y a un sentiment qui s'installe dans notre cœur. Dieu n'est plus là. Dieu ne me parle plus. Je me sens loin de Dieu. Mais Gadon. Vous comprenez de quoi je parle? Ces moments où on marche dans la rébellion et puis après un certain temps, on dit « Oui, mais la parole de Dieu ne me parle plus. J'entends plus l'Éternel me parler. L'Esprit de Dieu ne semble plus saisir mon cœur. J'écoute les prédications, j'ai une grosse larme de crocodile, je m'en vais puis je retourne dans ma bêtise. » C'est ça que Jonas est en train de décrire ici. Lui le vit littéralement. Lui le vit littéralement. Mais il est en train de décrire cette réalité spirituelle que nous vivons aussi lorsque nous fuyons loin de la face de l'Éternel et qu'à un certain moment donné, on a attristé l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne parle plus. Et Jonas fait ce que tout homme doit faire. Et on va voir encore une fois, je termine sur ça, la grâce de Dieu intervenir dans la vie de Jonas. Il dit au verset 8, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, tout d'un coup, la raison lui est revenue. Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. » Si Dieu est en train de te poursuivre actuellement et que tu es en train de sombrer dans cette dépression et ton âme est abattue, la seule chose sensée à faire, c'est de crier à l'Éternel, d'aller dans la prière et dire « Seigneur, secours-moi de moi-même, secours-moi de ma bêtise. » Et dans une scène qui est assez loufoque, l'Éternel parle au poisson, puis le poisson vomit Jonas sur la plage. Et c'est comme une nouvelle naissance pour Jonas. C'est vrai, c'est un nouveau départ. Bon, c'est pas le ventre de sa mère, on s'entend, mais c'est un nouveau départ pour Jonas. Mais voyez-vous, la grâce de Dieu est aussi simple que ça. Dieu le poursuit, il crie à l'Éternel. Est-ce qu'on a un super Jonas ici? Est-ce qu'il a fait ses preuves? Parce que la dernière fois que Dieu était gracieux envers toi, mon Jonas, tu n'as pas été trop tôt hot. Il n'y a pas le temps de faire ça. Dieu fait grâce. Et Dieu fait grâce aux marins qui crient à l'Éternel. Et Dieu va faire grâce aux Ninivites qui crieront à l'Éternel. Parce que c'est ça la grâce de Dieu. La semaine dernière, j'ai dit, on n'a pas besoin d'essayer d'être des meilleurs chrétiens. On n'a pas besoin d'essayer d'être des meilleures personnes. On n'a pas besoin d'essayer d'être des personnes plus religieuses. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être bouleversés par la grâce de Dieu, qui nous demande simplement de nous tourner vers Lui, de crier à Lui, de se repentir de ses péchés et de marcher avec Lui. Et on va voir ce qui se passe la semaine prochaine lorsqu'une ville entière répond à l'appel de Dieu. On va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, j'ai été béni cette semaine en étant touché encore une fois par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce qui peut me poursuivre pour me libérer de moi-même et de ma stupidité, Seigneur. Et ça m'a fait du bien. Toute ma vie chrétienne m'est apparue tellement plus légère cette semaine, Seigneur. Père, je veux te prier ce matin pour les gens au milieu de nous qui sont en fuite, qui sont en fugue, Seigneur, qui fuient loin de toi plutôt que de venir te rencontrer. Plutôt que d'aller dans la prière et chercher ta face, Seigneur, ils fuient loin de ta face. et il s'enfonce, et il s'enfonce, et il s'enfonce, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de venir les toucher par ta grâce à travers ce récit surnaturel et fantastique de Jonas, Seigneur. Viens les libérer de cette folie, de cette dépression spirituelle dans laquelle ils s'enfoncent, Seigneur. Père, je veux te demander de nous aider à connaître ton cœur, connaître ta compassion, Seigneur. Jonas refusait d'aimer et d'avoir compassion, Seigneur, envers ses Ninivites, alors qu'il voulait toute ta grâce et toute ta compassion pour lui et pour son peuple. Oh Seigneur, donne-nous de connaître ton cœur pour nos familles, pour nos amis, pour les gens de Longueuil, Seigneur. Donne-nous de connaître ton cœur pour aimer notre prochain, Seigneur, comme nous-mêmes et vouloir étendre jusqu'à lui le message de l'Évangile, le message de la grâce, Seigneur. Viens nous transformer comme Église. Que cette grâce soit manifestée les uns envers les autres ici dans nos relations. Que cette grâce soit manifestée dans nos relations, Seigneur, avec nos familles. Et enfin, Seigneur, que nous puissions aller annoncer ce message de grâce. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen.